Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens s'adressèrent à Jésus. Rabbi, nous voulons voir un signe venant de toi. Jésus leur répond, cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. En fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas, le prophète. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération. Et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes, qu'il nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. Que ton évangile, Seigneur, répande sa lumière, son parfum vivant, et enveloppe la terre tout entière. Pénètre en bénédiction toute chair, assoiffée de sainteté, virginale toute pure. Que de cette terre, ils puissent voir souffrir devant leurs yeux les portes de la Jérusalem d'en haut, libérées de toute entrave, lavées de toute faute, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. louange à toi, alléluia, louange à toi, alléluia. Méditation nous est proposée de Saint Théophylacte de Bulgarie. Après avoir créé tous les hommes, Dieu le Créateur de toutes choses a pourvu aux intérêts de tous. Et s'il semble s'être occupé davantage de Juifs, il le faisait en réalité pour le bien de tous. C'est ainsi que le Dieu de l'univers choisit un jour le bienheureux Jonas comme prophète des Ninivites. Il prépare de cette manière les hommes à accueillir ce futur venu. Il enseigne à tous qu'il est le Dieu non seulement des Juifs, mais de toutes les nations. Cette prophétie, unique en son genre, a été écrite selon le dessein de Dieu, à la fois pour nous éduquer et nous instruire, nous qui arrivons à la fin des temps. C'était pour nous empêcher de perdre courage, même si nous sommes tombés au plus profond du mal, et nous apprendre que nous avons pour Seigneur, l'ami des hommes. Cette prophétie nous incite à une conversion authentique, sans hypocrisie ni mollesse. En Jonas, c'est le mystère du Christ qui est signifié comme dans une figure. Il ne faut cependant pas y chercher la ressemblance parfaite de tous les détails. Car Jonas s'est affligé du salut de Ninive, tandis que le Christ désirait ardemment sauver toutes les nations. Célébrer la fête un jour de la Saint-Charbel, c'est quand même quelque chose de... Il y a quelque chose de terminable, c'est sûr. Saint-Charbel, c'est l'humanité qui rentre dans un monastère de silence. J'y suis allé, je sais pas, 6 fois là-bas. Il est rentré tout jeune, et a quitté sa famille. Il est parti à pied. Il a frappé à la porte de ce monastère. C'est un monastère de silence, c'est un peu comme chez nous les cisterciens. Il est rentré là, et il n'en est jamais sorti. Il n'a jamais, jusqu'à sa mort, reçu de visite d'extérieur, jamais. Pas une seule fois. Sa mère a fait des tentatives, mais elle a été refoulée. Et Saint-Charbel est un... C'est un très... Finalement, c'est un... Enfin, au Liban, il est vénéré parce que il est mort... au début du XXe siècle, en fait en 1898, il est mort, Saint-Charbel. Il s'est éteint là. Et il était dans un ermitage à la fin. Très vite, il a été dans le monastère. C'était dans le cadre du monastère, mais il s'est retrouvé avec dans un ermitage. Et là, c'était un ermitage comme ça, avec trois composantes. À raison de quoi, eh bien, je suis assez content de Saint-Charbel, parce que du coup, lui, il avait ses trois messes chaque jour. Alors, c'est bien. C'est un précurseur, trois messes par jour. La première messe, c'était pour le premier, ermite, le second. Et lui, qu'on célébrait mystiquement les deux, et même physiquement, les deux premières messes, et puis ensuite il célébrait la troisième, tout ça, ça commençait à 5 heures du matin. Il travaillait dur, il mangeait pratiquement pas, ou des choses extrêmement liquides, enfin, il mangeait pratiquement pas. Pas. Et c'était un très 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 grand silencieux, il n'y a strictement rien de lui, strictement aucun écrit, quoi. Pas le moindre papier, si une fois il a griffonné oui, ou quelque chose comme ça, c'est la seule chose qu'il ait fait. Donc il n'a pas parlé, il n'a pas écrit, il ne s'est pas exprimé autrement que en rentrant dans l'Eucharistie. En rentrant dans le silence eucharistique de Jésus, il n'a pas voulu exsuder hors de lui quoi que ce soit d'autre. Bon, vous connaissez tous l'histoire, c'est qu'il a été canonisé par le pape Paul VI, et que quand on l'a enterré là, bon, comme les autres, hein. Mais il y a eu de telles lumières sur sa tombe la nuit, et puis que les gens se sont posé la question. En fait, ça a d'abord été des brigands. Première fois. Et puis on s'est aperçu bien sûr que sur sa tombe, il n'y avait pas que de la lumière, il y avait de l'huile. Il y avait quelque chose qui, de la terre, était en train de sourdre. C'était de l'huile. Alors, c'est très embêtant pour le monastère, puisque le but d'un monastère, c'est que surtout personne ne vienne. On est là pour Dieu seul, c'est tout. Donc, alors, on a soulevé le tombeau. Ouvert le tombeau et il était évidemment incorrompu et il transpirait de l'huile. Une huile bénie, une huile qui guérissait. Donc tout ça c'était très très embêtant. Alors du coup on l'a fait rentrer dans le monastère et on a bien fermé dans un cercueil. Bien imperméable, quoi, bien solide, quoi. Alors du coup, c'est le cercueil qui a suinté de l'huile, mais ça coulait pas. Alors du coup, on a changé le cercueil, on a mis dans un cercueil en plomb, bien imperméable. Alors du coup, c'est le cercueil en plomb qui suintait de l'huile. Il a donné beaucoup d'huile, vous savez, il a donné, je sais pas combien, de centaines de fois son poids d'huile. Quelques milliers de fois aussi, parce que ça suffisait. Et puis comme ça marchait pas assez, donc c'était pas assez, du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis à l'entrée du monastère, là on rentre un peu à droite, et ils ont construit un mur en béton. Ils l'ont mis là, et un mur en béton, ben, c'est le mur qui suintait de l'huile. Alors, décidément, c'était comme pour dire, tant que je ne serai pas canonisé, tant que le ciel a dit, tant qu'il ne sera pas canonisé, il mettra de l'huile. Si vous voulez que l'huile sorte du monastère lui-même, puis ensuite de tout du village, faites comme vous voulez. Alors le pape Paul VI dit, allez vite, 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 je le canonise, et comme ça, on sera tranquille. Et effectivement, il ne se souvient plus de l'huile du jour où le pape l'a canonisé. Mais pendant ces jours difficiles hein, du Liban, les chrétiens ont été quand même terriblement torturés, broyés, massacrés. Aujourd'hui, c'est la paix hein, entre la Syrie et le Liban, mais pendant 40 ans, hein, c'était effroyable. Hein. Eh bien, le Saint-Charbel était toujours là. Il est dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons du Liban, vous avez Saint-Charbel. Et il prie Saint-Charbel. Moi, de mes yeux, j'ai vu hein, dans les maisons, quand on prie Saint-Charbel, eh bien, des icônes, l'huile suinte. Ils ont tous de l'huile de Saint-Charbel sortie des murs de leur maison. Et si on prie avec pour des moments un peu spéciaux, c'est des... Vous voyez ces grains d'encens là qu'on met pour encenser, là, qu'on met sur des charbons bien rouges. Eh bien, c'est les grains d'encens qui sont projetés du plafond. Hein. Paf, qui vous arrivent dessus, tout ça. Je n'avais gardé. Et pour ça, à certains moments, quand c'était terrible pour les chrétiens de Liban. C'était invivable de vivre au Liban. C'était chrétien aujourd'hui. On voit avec ces histoires de chrétiens persécutés, massacrés en Syrie, en Irak, etc., que c'est pas facile hein, pour eux. Alors c'est pour ça qu'on a eu 7 à 8 millions de gens qui ont migré comme ça depuis 3 ou 4 ans, là, c'est énorme. Sinon, c'est pas drôle. Mais ben, au Liban, quelque part, les Libanais sont restés. Et c'est Saint-Charbel qui leur faisait des chemins. Je me rappelle quelqu'un qui nous racontait qu'à un moment donné, pour échapper au massacre, il y avait une lumière qui s'est faite, il la suivait, c'était Saint-Charbel. Et il marchait sur un chemin, c'était un chemin d'encens, c'est-à-dire c'était que des grains d'encens et une épaisseur comme ça, paraît-il. Et c'est un chemin d'encens, il les avait partir d'un village et pour pouvoir prier tranquillement à un autre endroit. Et il marchait, alors il y a des chemins carrément d'encens. C'est assez particulier, vous me direz, hein, c'est les miracles que Saint-Charbel faisait après sa mort. Quand on va dans son ermitage, quand on va à l'endroit là où il célébrait sa troisième messe, dans cette chapelle, c'est impressionnant, c'est vrai, c'est impressionnant, ça va. Lui, il n'a pas eu besoin d'autre signe que le signe eucharistique. Et voilà. Et jamais, hein, jamais, ça n'est jamais arrivé quoi, de parler aux gens ou à qui que ce soit. Ou de manger quoi que ce soit de spécial. Juste un potage, c'est tout, un potage. À condition qu'il n'y ait pas de graisse dedans. Et puis la nuit, ben, il méditait les écritures. Alors bien sûr, il a été persécuté, on est venu l'embêter, on a dit hop. Enfin, un jour on a voulu, mais ça n'a jamais été très méchant. On rappelle cette histoire qu'une fois, voilà, donc il fallait que quand la lampe à huile s'arrêtait, ben, il prenait sa réserve d'huile pour rallumer sa lampe. Et une fois, quelqu'un a voulu faire une blague. Et il a mis de l'eau dans sa réserve d'huile, voilà. Il avait de l'eau à la place de l'huile. Voilà, c'est pas une anecdote extraordinaire. Mais l'eau s'est changée en huile, évidemment. Donc, vous imaginez bien. Saint-Charbel, il travaillait dur. Il avait une vigne à côté, là. Il travaillait. Il travaillait dur dans cette vigne. Il est comme un symbole pas un signe, comme l'exprime un petit peu le commentaire que propose Magnificat. C'est un signe pour le monde nouveau. Dans le monde nouveau, il n'y aura pas d'autre préoccupation, vous savez, que de marcher comme ça, vers la fin du monde, à partir de la fin des temps. Une espèce de tension à partir de la parousie, t'es rentré, une fois que t'es rentré dans les murs de Jérusalem, tu vas vers la vision béatifique, et entre les deux, rien du tout d'autre que ça. Rien. C'est beau, vous savez, ce miracle que Dieu a fait pour le peuple d'Israël avec le bâton de Moïse, le corps spirituel est devenu. Ils ont passé la mer Rouge à pied sec, quoi. Ça veut dire qu'ils ont pu rentrer avec le mystère de la croix glorieuse, écarter le mystère temporel du corps corruptible et marcher sur le corps, marcher sur la terre ferme du corps résurrectionnel, du corps spirituel venu d'en haut. Une fois que tu es dans le monde nouveau du corps spirituel venu d'en haut, tu peux avancer, hein. Et les ennemis qui sont derrière toi pour te massacrer, tu ne t'en occupes plus. C'est comme si ça se refermait derrière toi au fur et à mesure que tu avances, sans même les regarder. Et cette espèce de mur qui est derrière toi les engloutit derrière toi. Il y aura une lutte quand même après l'avertissement. C'est sûr, il y aura ce combat qui pourrait humainement paraître affolant, quoi, aux yeux, selon des considérations humaines. Parce que bon, mais non, Sacha Arbel, une fois qu'il est rentré, il avance. Derrière lui, tout est fini, même si c'est sa mère. Même si c'est n'importe qui, d'ailleurs. Il avance. Et le peuple d'Israël est avancé sur la terre ferme de la sol solide de la résurrection. Et derrière lui, les pharaons peuvent arriver. Le peuple d'Israël avec Moïse et surtout avec Jésus dans sa croix glorieuse, avance vers l'autre rive, sur la terre promise du ciel, sans même regarder derrière eux. Et derrière eux, même si ça avait été des centaines de fois plus féroces, plus nombreux, plus ardents et plus cruels, tous, par derrière eux, ils sont engloutis. C'est joli, comme c'est beau, vous savez ça. C'est très très beau de savoir que c'est une grâce qui est donnée au peuple de Dieu dans les derniers temps. Pour les derniers temps, c'est comme ça que ça va se passer. On ne peut pas dire qu'après l'avertissement, tout est fini, on est comme sur un grand toboggan, et il ne se passe plus rien, il se passe quand même quelque chose, parce que quand tu avais les pharaons qui te couraient derrière, tu étais là avec ton petit enfant quand même, tu étais avec ta petite fille, tu étais là avec ta femme, tu étais là avec tes parents, tes vieillards, tout ça. Tu dis bon, eh ben non. C'est quoi, d'où leur venait cette tranquillité? Eh bien, elle venait des nuées. Il y avait le Christ qui était avec eux, comme le dit l'Écriture, devant ou derrière et au milieu d'eux, visiblement. C'était visible, il y avait quelque chose de visible dans la présence du Messie d'Israël. Ben, c'était quand même 1300 ans avant Jésus-Christ, quand même. Le Messie s'était rendu visible. Et là, on voyait, disons, la nuée glorieuse et transfigurée de sa personne. Et puis dans des faisceaux de lumière qui se mettaient entre le peuple d'Israël et l'Antichrist, mais aussi en même temps devant. Et l'ensemble faisait que, bon, ils avançaient tranquillement. De toute façon, il faut reconnaître qu'à partir du moment où tu vois une muraille d'eau à droite, une muraille d'eau à gauche, et que tu passes à pied sec, Tu te dis, bon, là, on est quand même entre dans de bonnes mains, tout de même. Hein. Et vous savez, les moines, quand ils rentrent comme ça dans la vie monastique, il faut une forte dose de grâce de Dieu et de miracle de Dieu pour se mettre dans leur cœur et donner leur vie. Hein. Et ils le font à cause du miracle que Dieu leur accorde. Nul ne rentre dans une vie de ce genre-là, sinon par appel de Dieu. Hein. Parce que c'est sûr, si ce n'est pas Dieu qui appelle, ça ne donne pas quelque chose de bon. Hein. Et les moines sont là, les ermites sont là, pour rappeler à quelqu'un qui est baptisé que sur la terre, ce qui compte, c'est Dieu seulement. C'est Dieu seul. Uniquement Dieu. Et rien que Dieu. Et Saint-Charbel, c'est vraiment... C'est un saint pour nous, vous voyez. Si l'Église ne l'a canonisé que dans les années 60, c'est avec le pape Paul VI... Ça veut dire que c'est le pouvoir des clés du Saint-Père à déclarer que la vie spirituelle de cet homme devait s'écouler comme des gouttes d'huile et d'encens. L'huile, c'est ce qui descend, qui dégouline et déborde. Et l'encens, c'est ce qui monte et pénètre avec l'ardeur d'une vie brûlée dans le corps spirituel du Christ, du cœur ardent de Jésus. Et de vivre de ça, cet homme vivait ça, comme ça. Eh bien, si, vous savez, quand le pape il canonise, il engage l'infaillibilité de l'Église. C'est pas, ça ne veut pas dire que tant que le saint n'est pas canonisé, eh bien, il n'est pas encore au ciel. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire simplement que tout ce que Dieu veut faire passer par ce saint sur la terre, à partir du jour de sa canonisation, dans le corps mystique vivant entier eucharistique, peut passer à l'intérieur de nous, pour qu'on puisse vivre le même type de grâce que ce qu'il a vécu, et qui sont des grâces exceptionnelles. Il est rentré dans le ventre du monstre marin, et puis le troisième jour, pendant 3 jours, si je puis dire, il est ressuscité. Il a posé son pied, le baptême, on s'en rend peut-être pas assez compte, mais pose notre pied après notre mort. Notre pied marche déjà dans ce qui est après notre mort, mais de manière pas du tout symbolique ou voilà, éthérique, imaginaire, en disant j'y crois, quoi. C'est pas une question de foi, c'est que Dieu nous transporte vraiment, et nous transporte vraiment dans Jésus. Et on est transporté sur le corps solide de la résurrection, on est brûlé par le règne du Sacré-Cœur, et on est complètement identifié au peuple d'Israël, on est identifié au peuple de Dieu qui s'avance et qui se sépare. Qui se sépare de ce monde dans un temps qui n'a plus rien à voir avec le temps de ce monde. On est dans l'instant présent de la Jérusalem glorieuse, au moment où la Jérusalem spirituelle y pénètre dedans. Et nous sommes comme le corps spirituel de la Jérusalem spirituelle pénétrant dans l'onction à l'intérieur de la Jérusalem glorieuse. Ça, voilà, ça a une mission. C'est les effets, j'allais dire, intérieurs et palpables de la grâce chrétienne à partir du cinquième sceau de l'Apocalypse. Saint-Charbel, vous savez, doit dès maintenant représenter quelque chose pour nous de ce point de vue-là, parce que à un moment donné, hein, on s'inquiète sur des choses inutiles. Et donc Saint-Charbel, c'est drôlement bien, parce que au fur et à mesure que Sikoussi Meshoem devient de plus en plus Le mésome devient de plus en plus arrogant, de plus en plus incontournable. Ben, au fur et à mesure, ben, le jour, quoi, le jour de la parousie du Seigneur est quelque chose de très important. C'est pour nous, intérieurement. Pourquoi? Parce que sa présence va devenir de plus en plus, pas seulement de plus en plus sensible, mais de plus en plus personnel, de plus en plus réel. Le corps vivant, Jésus vivant et entier, va dégouliner. Et nous sommes les membres vivants du corps mystique vivant, Jésus vivant, de plus en plus. Et ce passage de l'un à l'autre, dans chacune des éléments de lumière qui irradie notre prière, ça va devenir d'une manière de plus en plus palpable, comme ça. Et nous allons avancer du coup au milieu de ce monde. Voilà, comme Moïse, comme Saint Charbel, comme Saint Jean de l'Évangéliste, comme Saint Jean de l'Apocalypse, comme Marie, alors c'est là que moi personnellement je suis très sensible à ça, comme Marie entre sa dormition et son Assomption. Ah, c'est pour ça que cette Marie-Madeleine, c'est quand même quelque chose avec son huile et ses parfums. Parce que Madeleine, entre toute sa mission à elle, c'est l'ange qui est à la tête et l'ange qui est aux pieds. Ça, c'est fort, vous savez. C'est le signe de Jonas. C'est ça la sagesse de Dieu dans notre cœur et dans notre chair. Et dans notre chair. Et elle, c'est vraiment ça, c'est ce passage de l'ange sacerdotal qui est à la tête, l'ange sacerdotal qui est par sa gauche, on est porté comme ça sous la nuque, et avec l'autre bras, le Seigneur nous étreint. D'une étreinte, ça, c'est Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine, c'est autre chose que Saint Jean. C'est autre chose que Marie. Ils en sont trois au pied de la croix, Marie, Madeleine et Jean. Et Marie-Madeleine, vous voyez, il y a quelque chose de très fort dans cette Marie-Madeleine. Et tout de suite après, Saint Charbel. La communion des saints a des effets sur les chrétiens, les membres vivants de Jésus vivant, qui sont des effets palpables et sensibles, pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce de Dieu. Donc, une fois que Dieu a mis une grâce dans un saint, elle peut se déployer invisiblement, mais aussi, pas seulement invisiblement, dans tous les membres vivants de ceux qui viennent après eux, s'ils se nourrissent et s'ils pénètrent tranquillement à l'intérieur de la grâce qui leur est donnée à ce moment-là. C'est pour ça que, vous voyez, il y a une chose que je dois vous dire, c'est que quand un saint est canonisé, c'est pas n'importe quoi. On a pu canoniser par exemple Sainte Jeanne d'Arc, mais c'était combien de siècles après? C'est fou, quoi. Combien de siècles? 5 siècles après. Et pourquoi? Et voilà. C'est là où c'est Dieu qui décide. Il décide que c'est à partir de ce moment-là que le sacrifice eucharistique, comprenne qui pourra, hein. Celui qui n'y porte pas son attention ne reçoit rien du tout. Porte dans l'intimité du corps spirituel de la terre ce que ce saint a apporté au corps mystique vivant entier à partir du jour où le pouvoir des clés de l'Église de la terre a déclaré qu'il fallait que, et ça s'écoule en eux, en imprégnant, vous savez, l'huile, ça imprègne un buvard. En l'imprégnant. Dans une famille, j'étais venu avec 4, 5, une voiture, 5, on était 5 dans la voiture. Et puis, je sais pas, on a été prié dans une famille, c'est des Français, notre maman vous invite. Allez, alors, on a été dans cette famille, à Beyrouth, enfin, c'est dans le quartier de Beyrouth. Et j'étais allé avec une sœur religieuse. Bah, qui était pas libanaise, mais enfin, elle avait son couvent là. Donc, elle nous a servi pour retrouver les routes, etc., le petit chemin pour y aller, quoi. Bon. Et voilà, on priait, etc. Et puis, elle était avec son chapelet en bois. Et on a prié dans cette maison de libanaise normale, quoi. Enfin. Et un petit peu comme le clergé, vous savez, quelquefois en France, dit « Mais non, mais tout ça c'est des bêtises, mais non, c'est d'accord, c'est possible, mais moi j'y crois pas, enfin bref. » Et c'était impressionnant cette maison, parce qu'il y avait il y avait une pièce entière, enfin, il y avait quand même trois pièces comme ça à peu près. Puis leur chambre sans doute était en haut, je suppose. Quand même, on pouvait prier. Là, il y a de la place au Liban, c'est pas comme dans les HLM en France. Hein, et tout le pan ici occidental, c'est eux qui fabriquaient ça. C'était que une espèce de crèche, enfin, une espèce de crèche vivante. Ouais, ça prenait un espace comme ça. Et puis il y avait des grottes, ça représentait la prière, ça représentait quelqu'un qui priait, ça représentait Jésus ici ou Saint-Charbel là, enfin bref. Ça paraissait vivant. Ils sont formidables, les chrétiens du Liban. Hein. C'est quelque chose. Hein. Quand les Syriens venaient pour les persécuter, hein, attendez, c'était pas rien. Ils arrachaient les crucifix, ils les mettaient par terre. Et ils devaient piétiner Jésus crucifié. Et sinon, ben, tant pis pour eux. Quand je dis tant pis pour eux, vous savez, ils n'étaient pas mis à mort, c'était pas ça. Ils étaient torturés. Torturés. Et de Damas, là, le mot d'ordre, c'est la torture, il y avait trois tortures au choix. Ou bien couper en petits morceaux, un peu écorché, puis couper, écorché, couper, écorché, couper. Ou bien écraser sur des meules, écraser petit à petit, ça durait des heures et des heures. Attendez, ils en ont massacré de cette manière-là, ils en ont massacré combien? C'était pas seulement je te tue terminé. Ça, c'était quand un musulman faisait ça, c'est un cadeau, quoi, une miséricorde aux chrétiens, quoi. Une petite fille de 11 ans, allez hop, tout de suite, tu gores, c'est fini. Alors ça, c'était vraiment le cadeau, quoi. C'était vraiment la miséricorde. C'est le musulman d'une bonté inouïe, quoi, héroïque. Les chrétiens, hein, nous, on est quand même à côté de ces chrétiens d'Orient, vous savez. Hein. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Eh bien, il ne marchait pas sur le crucifix. Évidemment. Eh bien, cette petite bonne sœur était là avec son chapelet. Et puis on priait. Et c'était relativement... Je ne sais pas pourquoi, cette pièce n'était pas éclairée comme celle-ci. Était quand même, ou alors c'était peut-être parce que c'était le soir. Et à un moment donné, on entend une pluie d'encens, c'est-à-dire du plafond, pa 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 p
terme.
Alors, il y avait deux ou trois qui étaient là, dit, ah, dis donc, mais c'est, ils continuent à prier, bien sûr. Tout le monde continue à prier. Ils ont l'habitude, de toute façon. Et elle, elle haussait les épaules comme ça. Et d'un seul coup, il y a un grain d'encens qui est arrivé, et paf, il a jeté son Saint-Charbel, a lancé un grain d'encens, ça, l'a balancé sur son chapelet, ça lui a échappé des mains, elle l'a ramassé, et le grain d'encens, ben, il s'est mis sur la croix, vous voyez, derrière la croix du chapelet, et il s'est enfoncé dedans, quoi. On ne peut plus l'enlever. Il n'y avait pas à l'enlever, d'ailleurs. Alors, on lui a remis le chapelet, et il y avait ce grain d'encens, en disant, écoute, ça suffit, la bonne sœur, maintenant. Hein. Ça suffit, cette espèce de dire, oh, l'intellectuellement correct. Ça, c'est la leçon du libre à la France, ça. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, dans tes visites, tu rachètes ton peuple, tu nous suscites une force de salut dans l'Amazon de David, ton serviteur. Tu l'avais dit par la bouche des grands saints prophètes autrefois, que nous serions affranchis de toute peur, délivrés des mains de l'oppresseur, de l'ennemi, que nous puissions te servir en toute justice, grâce à ta tête, à ta présence, face à face tout au long de nos jours. Toi, petit enfant, tu es appelé prophète du Très-Haut. Tu marches devant face à la face du Seigneur. Tu prépares ses voies. Tu annonces à ton peuple le salut dans la rémission de ses péchés. Amour, tendresse, cœur de notre Dieu. Soleil levant qui vient nous visiter. Astre d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Guide pour nos pas, chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.